Il est 8h.
Renseignez-vous sur les cyberattaques russes. Tous les pays du monde sont menacés par ce type de cyberattaque, y compris les infrastructures d'éducation, évidemment. Et c'est en effet une partie des choses qui se sont passées hier.
Jean-Michel Blanquer avait été bousculé face au sénateur mercredi. Les bugs ont continué. Bilan d'une semaine chaotique pour l'école à la maison. Et nous passons un coup de fil au syndicat des proviseurs qui redoute déjà la rentrée du 26 avril. Dans ce journal, une délégation française jugée trop petite. L'Algérie se vexe et fait annuler la visite officielle de Jean Castex. Et puis, pas aussi courtois dans la vie que dans ses vers. Nous verrons qui était vraiment Charles Baudelaire. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mon invité, le fondateur du Puy du Fou, ancien ministre, écrivain, Philippe de Villiers veut secouer les consciences à travers son nouvel essai Choc le jour d'après. C'est une exclusivité, il est sur Europe 1, rendez-vous à 8h15.
Juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour et bon courage. C'est la dernière journée de cours à distance avant 2 semaines de vacances d'avril pour tous les élèves de France. En même temps, ils sont 12 millions et cette cohorte a quelque peu submergé les plateformes et les serveurs de l'éducation nationale. On a parlé de cyberattaque, on va y revenir. Mais un an après le premier confinement, eh bien les élèves, les parents et les profs ont surtout l'impression que l'école à la maison n'a pas retenu ses leçons.
Bonjour Bruno Bobkiewicz.
Bonjour.
Vous êtes proviseur de la cité scolaire Berlioz à Vincennes et secrétaire national du SNPDEN UNSA. Ce matin, vous dressez un bilan catastrophique de la semaine écoulée.
Oui, c'est bien ça. Quasiment rien n'a fonctionné depuis mardi.
C'est-à-dire que ça a été impossible pour vous de travailler pour les élèves, pour les parents. Concrètement, rien n'était faisable, fonctionnel.
Ou très peu de choses. On a des services très dégradés concernant les environnements numériques de travail qui sont mis en place par les collectivités. On a l'outil CNED qui est quasiment indisponible depuis 3 jours. Et on a même les outils privés qui sont naturellement et habituellement disponibles qui ont dysfonctionné sur des courtes périodes depuis le début de semaine.
Vous parlez même d'un accident industriel majeur.
Eh bien oui, parce que globalement, les enseignants et les élèves sont en incapacité de se joindre, de faire la classe à la maison, comme on utilise ce terme régulièrement, et on est en grande difficulté depuis mardi.
Alors Bruno Bobkiewicz, vous restez bien avec nous, on l'entendait, hein, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a évoqué des cyberattaques russes, des attaques par déni de service, comme disent les spécialistes. Alors Pierre Herbulot va nous expliquer de quoi il s'agit.
Une opération escargot sur Internet. C'est le principe de ce qu'on appelle le déni de service. L'internaute malveillant envoie, via un logiciel, une énorme quantité d'informations au site visé jusqu'à ce qu'il craque. Une attaque courante. Pourtant, Nicolas Arpagian, auteur du livre La cybersécurité, doute que le CNED en ait été victime.
S'il y avait une cyberattaque par déni de service, elle ne correspond pas aux caractéristiques habituelles qui sont soit la démarche crapuleuse avec revendication financière, soit la démarche idéologique avec la mise en avant d'un discours. Ça ne ressemble pas du tout à un cas classique d'attaque en déni de service.
Pour lui, ce serait tout simplement un problème technique de sous-dimensionnement des serveurs. Sauf qu'il pourrait exister une autre motivation à cette potentielle cyberattaque, la procrastination. Jérôme Billois, du cabinet Wavestone.
On pourrait imaginer que des adolescents ou des jeunes adultes, qui sont souvent des férus de jeux vidéo et qui ont l'habitude de pratiquer ce type d'attaque, qui est souvent fait dans une logique de jeu, aient pu utiliser leur savoir-faire contre le site qui finalement leur demandait d'être connecté pour se faire l'école à la maison.
Une mauvaise blague qui pourrait coûter très cher, 7 ans de prison et 300 000 euros d'amende.
Alors Bruno Bobkiewicz est toujours avec nous en direct sur Europe 1. Est-ce qu'on peut mettre à profit, là, les 2 semaines de vacances qui commencent ce soir pour tout régler avant que les collégiens et les lycéens reprennent à nouveau à distance le 26 avril?
Ah bah c'est aux responsables qu'il faut le demander. C'est-à-dire, nous, c'est évidemment notre demande. On a 2 semaines devant nous qui se présentent et l'idée, c'est qu'on puisse, le 26 avril, être en capacité de permettre aux élèves et aux enseignants de travailler dans les meilleures conditions. C'est-à-dire, ne pas reproduire ce qui s'est passé cette semaine, il y a 2 semaines, pour régler les difficultés techniques. Ça ressemble quand même, malgré tout, à des sous-dimensionnements de serveurs.
Oui, oui, pardonnez-moi. Effectivement, c'est aux responsables qu'il faut le demander, mais on vous sent sceptique, Bruno Bobkiewicz.
Disons que si on n'a pas été capable de le faire pendant un an, est-ce qu'on va être capable de le faire pendant deux semaines? Vu qu'on nous garantissait que tout allait marcher, on peut quand même aujourd'hui être inquiet hein, sur la façon dont les choses vont pouvoir évoluer pendant deux semaines. En tout cas, nous, on le demande de façon extrêmement insistante parce qu'on est en incapacité de permettre ce travail à distance dans de bonnes conditions.
Bruno Bobkiewicz, merci beaucoup du SNPDEN UNSA, proviseur, le syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale.
La diplomatie à la une avec ce rapprochement que tente la France ces derniers mois avec l'Algérie. Des gestes symboliques forts ont été faits sur l'histoire commune entre les deux pays, mais il y a comme un coup de froid. Jean Castex renonce à son voyage officiel prévu ce week-end. Jean-Rémy Baudot, officiellement en raison de la crise sanitaire.
Oui, ce déplacement aurait dû être l'un des symboles du réchauffement des relations entre la France et l'Algérie, mais c'était sans compter sur le Covid. En temps normal, Paris et Alger se retrouvent régulièrement pour ce qu'on appelle un comité intergouvernemental de haut niveau, une sorte de réunion entre ministres pour discuter diplomatie, sécurité, contrat ou encore éducation. La dernière fois, c'était en 2017 à Paris, et l'Algérie avait alors dépêché 8 ministres. Et c'est ce niveau que le pays attendait en retour ce week-end. Impossible à cause du Covid, a répondu Matignon, qui a proposé de venir avec un format plus restreint, quelques ministres importants, dont Bruno Le Maire et Jean-Yves Le Drian. Une délégation jugée insuffisante par les autorités algériennes, d'où cette annulation. Ça aurait été un autre pays, ça aurait été la même chose, plaide l'entourage de Jean Castex. À Paris, on refuse de laisser entendre que ce report illustre d'éventuelles difficultés avec Alger. Paris qui s'est lancé dans un travail de mémoire sur la guerre d'Algérie, qui a ouvert récemment ses archives. Mais manifestement, le nombre de ministres présents lors d'un déplacement conditionne encore beaucoup le dialogue entre les deux pays.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
La diplomatie encore avec ce qui a été appelé le Sofagate.
Sofa pour divan ou sofa tout simplement canapé. Cette scène hallucinante que nous décrivait hier Vincent Hervouet, les deux leaders de l'Union européenne reçus par le président turc Erdogan. Mais il n'y avait qu'un seul fauteuil pour Charles Michel et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, obligée à ce moment-là de faire bonne figure et de s'asseoir sur un divan. Un sofa en retrait, donc. Le président du Conseil, lui, a été critiqué ensuite pour ne pas avoir protesté. Hier, Charles Michel s'est expliqué.
Je regrette profondément l'image qui a été donnée et l'impression qui a été créée à cause de ces images et à cause de cette situation, d'une forme de dédain ou de mépris pour la présidente de la Commission européenne, mais également pour les femmes en général. Je regrette profondément cette situation. J'ai rebobiné 150 fois dans ma tête depuis l'heure et je voudrais tellement pouvoir rebobiner, revenir en arrière. Et si je pouvais le faire, j'aurais veillé à ce qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté et que l'on ait effectivement une situation qui aurait dû être une situation tout à fait normale, c'est-à-dire avec une configuration de siège qui montre le respect pour chacune et pour chacun. Avec distance après, on peut dire qu'il aurait dû faire ceci ou il aurait dû faire cela. J'avais la conviction que cela provoquerait un incident bien plus grave qui détruirait la capacité qui est pourtant très fragile et qui était très fragile à ce moment-là d'avoir enfin une relation un peu moins négative avec la Turquie.
Voilà, difficile de savoir comment réagir hein, dans l'instant. Charles Michel qui a donc rebobiné cette séquence avec quelques regrets, on l'entend.
Vous restez avec nous dans un instant, 200 ans exactement après sa naissance. On va parler de Charles Baudelaire, un immense poète mais misogyne et désagréable. Il en était conscient d'ailleurs.
Et puis eux sont conscients d'avoir enfreint les règles sanitaires. Deux prêtres parisiens ont passé hier la journée en garde à vue.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h09 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Un commissariat en guise de confessionnal. Garde à vue hier pour le curé et le vicaire de Sainte-Eugène-Sainte-Cécile à Paris, où a eu lieu cette messe de Pâques sans masque ni distanciation. En plus d'une procédure canonique, Marion Dubreuil, c'est donc la justice civile qui enquête sur les conditions de cette célébration.
Oui, face aux policiers, le prêtre et son vicaire ont bien été obligés de reconnaître les faits. La vidéo de cette messe le prouve. Lors de cet office pascal, pendant près de 4 heures, le port du masque n'a pas été respecté, ni la distanciation physique, sans parler du nombre de personnes réunies, pour la plupart âgées et vulnérables. Les policiers ont également entendu l'évêque auxiliaire de Paris en tant que témoin, pour s'assurer que le diocèse n'était pas partie prenante. D'après nos informations, les deux ecclésiastiques de la paroisse de Saint-Eugène-Sainte-Cécile, qui encourt tout de même un an de prison et 15 000 euros d'amende pour mise en danger de la vie d'autrui, n'ont affiché aucun remords face aux enquêteurs. Il faut dire que le curé n'en est pas à son coup d'essai. Les policiers étaient déjà intervenus à deux reprises dans cette église l'an dernier pour mettre un terme à des messes clandestines. C'était en plein confinement et tout rassemblement, même pour exercer son culte, était alors interdit.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
Un anniversaire, 200 ans.
Oui, bon anniversaire, Charles Baudelaire, né le 9 avril 1821. Alors poète maudit à son époque, il est aujourd'hui révéré, même si ceux qui le connaissent bien, comme Jean Tellet, auteur du livre Crénom Baudelaire, interrogé par Nicolas Caro, donc même si ceux qui le connaissent bien savent que la personnalité de Baudelaire est controversée.
Il faut dire qu'il ne gagne pas forcément à être connu. Baudelaire était un sale type, on peut le dire, détestable, odieux, misogyne. Et d'ailleurs, il aimait qu'on ne l'aime pas.
Il disait par exemple une phrase que j'aime bien, c'est « Avec mon talent désagréable, je voudrais mettre l'humanité tout entière contre moi. Je vois là une jouissance qui me consolerait de tout. » Et lui qui détestait tout le monde, il se détestait lui aussi. Il disait « Mécontent de tous » et mécontent de moi.
L'époque le lui a bien rendu. Sur les 100 poèmes des Fleurs du Mal, 6 ont été interdits par la censure pendant 92 ans. C'est que Baudelaire ne s'occupait pas de morale. Il cherchait le beau dans le spleen, la mélancolie de sa propre vie. Et c'est cette tristesse magnifique qui faisait son talent, Jean Tellet.
On finit par le trouver touchant, émouvant, avoir de l'empathie pour Baudelaire, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un type très malheureux qui a eu un chagrin d'enfance dont il ne s'est jamais remis. C'est aussi simple que ça, la vie de Baudelaire.
Reste son œuvre. Pour l'occasion, Calman Levy réédite Les Fleurs du Mal et les éditions Quarto proposent la plupart de ses textes dans un beau volume de 1900 pages.
Nicolas Caro, qui n'est pas un sale type et que l'on retrouve tous les dimanches à 15h sur Europe 1 pour son émission La Voix est livre.
Et puis tiens, voici une collection de livres qui fonctionne plutôt bien également au cinéma.
Vous avez reconnu le générique des films Astérix.
Évidemment.
Le prochain, intitulé L'Empire du Milieu, vient de dévoiler son casting. Guillaume Canet en Astérix, oui. Gilles Lelouch sera Obélix. On pourrait d'ailleurs jouer aux devinettes pour la suite si je vous dis Marion Cotillard.
Marion Cotillard. Falbala ?
Non, ça c'est Angèle. Marion Cotillard, ce sera Cléopâtre. Alors plus facile peut-être, Philippe Catherine.
Ah, si c'est facile, c'est Assurance Tourix.
Oui, de barbe. Pierre Richard sera druide, panoramique.
Ah bah oui.
Forcément, ça fonctionne. On verra aussi Vincent Cassel, Jérôme Commandeur, Angèle, donc Audrey Lamy, Manu Payet et Zlatan Ibrahimovic. Ça, c'est pour vous, Mathieu. Zlatan Ibrahimovic en centurion romain.
Ah, donc on devrait avoir un Zlatan Ibrahimovic qui se fait battre, normalement.
ça n'arrive pas, c'est pas possible.
Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un tout petit instant, Philippe de Villiers est l'invité de Sonia Mabrouk. Restez bien sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Ce matin, Philippe de Villiers, auteur du Jour d'après, ce que je ne savais pas, et vous non plus, chez Albin Michel.
Bienvenue à vous et bonjour Philippe de Villiers.
Bonjour.
Dans ce nouvel essai, Le Jour d'après, vous lancez la charge contre les GAFA, ces géants du numérique coupables, de se saisir du Covid comme d'une fenêtre d'opportunité pour réinitialiser le monde. Rien que ça, mais qu'est-ce que vous entendez par là ?
C'est très simple, ce qui m'a mu la puce à l'oreille... C'est un jour, sur Internet, un film, une séance, un exercice de simulation fictif d'une pandémie de coronavirus. Écoutez bien la date, Sonia Mabrouk, le 18 octobre 2019, c'est-à-dire plusieurs mois avant qu'on ne parle du Covid. Et donc, cet exercice de simulation réunit Big Pharma, Big Data, Big Finance, les puissances privées de la numérisation du monde. Ils sont en train de simuler un exercice de simulation d'une pandémie. Et en fait, ils décrivent ce qui va arriver, y compris d'ailleurs les fake news, etc. Ils décrivent tout. Bon, donc je me dis, mais alors ça veut dire qu'il y a des gens qui savaient.
Et en réalité, je réalise que... Qui savaient ce qu'allait se passer ? Précisément avec cette pandémie ? Certains savaient avant ?
Non, alors moi je pense que ils voulaient un monde sans frontières depuis longtemps, les élites globalisées en fait. Ils savaient que ce monde serait pathogène, ils l'attendaient parce qu'ils pensaient que ce serait une fenêtre d'opportunité. Et c'est d'ailleurs le sens du livre de M. Klaus Schwab, le patron du Forum économique de Davos, qui est la plateforme culminante du dialogue des élites du village global, et qui dit dans son livre « Covid-19, la réinitialisation du monde », c'est pas moi qui invente, ça, c'est lui, et il dit « c'est une fenêtre d'opportunité ». En plein Covid, le 2 juin dernier, et le 3 juin 2020, le lendemain, il y a une vidéoconférence mondiale, là encore avec tout le gratin mondial, et qui dit, voilà, la fenêtre d'opportunité, c'est quoi? C'est la digitalisation du monde et le changement climatique. En d'autres termes, on veut nous imposer et la classe dirigeante acquise aux puissances privées du numérique et les puissances du web, on veut nous imposer une société disciplinaire du contrôle total.
Alors,
c'est la raison pour laquelle j'ai
Philippe
pris
Devilliers,
ma plume
oui.
pour décrire
justement,
le jour d'après.
Dans votre essai, vous faites référence à des manifestes, des livres, dont cet ouvrage majeur, The Great Reset, la grande réinitialisation, signé par deux membres éminents, on va dire, du Forum économique mondial de Davos. Mais dans ce livre, il est surtout question de prospective, d'anticipation, rien de sulfureux.
Ce que je décris,
ils ont anticipé.
C'est, j'anticipe sur ce qui va se passer. C'est, en d'autres termes, beaucoup de gens, moi le premier, comme vous sans doute, je pensais que le monde d'après serait un retour au monde d'avant. Vous voyez,
vous y
on allait
vraiment
ouvrir
cru,
les bistrots, oui. les restaurants, les magasins, tous les métiers de la. Bon. Et en fait, je m'aperçois, et c'est ça que j'ai voulu décrire, que le monde d'après, c'est un le jour d'après, c'est un monde dans lequel trois choses, dans lequel, au nom du tout sanitaire, on sacrifie la jeunesse et la transmission. C'est un renversement anthropologique majeur. Au nom du tout numérique, on sacrifie la société de voisinage, les métiers de la main et du cœur, la civilisation, la civilité, la sociabilité, dans une société distanciée. Troisièmement, au nom du post-humaniste que revendiquent les GAFA, on dénature l'espèce oui. humaine.
Et
c'est
tout
pas
cela,
hasard
selon
si
vous...
l'euthanasie arrive aujourd'hui sur le bureau de l'Assemblée.
Mais tout cela, imaginé selon vous par Big Data, Big Pharma, Big Finance, qui se serait donc servi du Covid, mais... Vous êtes en plein délire complotiste, pour dire beaucoup.
Alors ça, on dit ça quand on dit ça à des gens qui mentent, on dit ça à des gens qui sont dans le secret. Moi, ce que je vous dis là, c'est dans les livres, c'est le livre de M. Klaus Schwab, ce sont les affirmations de l'exercice de simulation dont je vous ai parlé. C'est pas moi qui invente. Le Great Reset, il est à la une du Time en novembre 2020.
Oui, mais c'est-à-dire beaucoup parlent de ce livre, Philippe Devilliers, comme d'une coquille vide où beaucoup transposent des théories complotistes.
Alors, les théories complotistes, alors on va parler du complotisme, je vais vous dire. Le complotisme, c'est les menteurs. Monsieur Véran, s'il avait été connu par Monsieur Orwell, il aurait été ministre de la vérité d'Orwell. Parce que les gens qui nous mentent toute la journée et qui sont au pouvoir, qui nous disent les marques ne servent à rien, qui nous disent voilà, de toute façon on va en sortir dans 15 jours, etc. Tous les mensonges accumulés, c'est eux le complotisme.
Ce sont des mensonges ou alors c'est une crise inédite dont personne n'a vu venir, ni l'ampleur, ni ne connaît l'évolution, Philippe Devilliers.
Oui, mais ce qui est très frappant quand même, c'est trois choses. Premièrement, on a fait un confinement sans les frontières, alors qu'il aurait fallu d'abord commencer par les frontières. Ensuite, on a donné le pouvoir au biopouvoir, au maréchal, le plein pouvoir au maréchal Delfrécy, c'est ce qu'a fait Macron. C'est le biopouvoir qui a le pouvoir. Et enfin, et surtout, la distinction entre les essentiels et les non-essentiels. Ça rappelle exactement le livre de Wells, avec les Morlocks et les Eloïs, c'est-à-dire les Morlocks qui vivent sous terre, au service des Eloïs, qui sont dans la Bonaise et qui vivent sur terre. Vous voyez, cette distinction, elle est dans le transhumanisme, c'est-à-dire qu'il y a deux humanités, ceux qui sont condamnés à mourir, les petits commerçants de proximité, tous ceux qui ne sont pas dans le en ligne, tous ceux qui ne sont pas liés au numérique, tous ceux qui appartiennent à la société, à l'économie traditionnelle, et puis les autres, ceux qui prospèrent,
les amis du webistan. Les intérêts de nos dirigeants, et en particulier du président français à cela, est-ce que pour vous, c'est un garde-fou à ce que vous décrivez, ou au contraire, est-ce qu'Emmanuel Macron en a été l'accélérateur, et dites-vous même, l'agent zélé d'une élite qui voudrait réinitialiser le monde?
Écoutez, c'est simple. En 2016, il n'était pas connu. Il s'est rendu à Davos, Emmanuel Macron, et il a été distingué, distinction rare, rarissime, Young Global Leader, par M. Schwab. Et donc, en fait, il appartient à ce monde, c'est un, ce qu'on
mais
appelle un
théorisé.
Enfant d'avance.
La Startup Nation, il l'a théorisé.
Il appartient à ce monde de la numérisation du monde, il appartient à ce monde de la tech, il appartient à ce monde, en fait, qui veut changer la société, qui veut changer deux sociétés. Il n'appartient pas au monde qui est le mien, c'est-à-dire le monde de la province, le monde de l'esprit français, le monde... Voilà. Regardez, par exemple, là, avec l'ENA, il va changer l'ENA. Pourquoi ? Parce que c'est McKinsey, c'est le happy management.
Mais c'est savoureux de votre
c'est
part,
la discrimination
Philippe Devilliers.
Positive.
Vous êtes un ancien élève de l'ENA, c'est savoureux de votre part aujourd'hui de dire cela.
Alors, mais moi, je pense qu'il faut réformer l'ENA. Parce que, pourquoi il faut réformer l'ENA ? Parce que quand vous en sortez dans les grands corps, vous devenez d'abord un contrôleur avant d'être un lecteur. Mais réformer l'ENA, c'est pas supprimer une école dont on a besoin par ailleurs. Parce que qu'est-ce qu'un chef d'armée qui se retourne contre ses grenadiers voltigeurs ? Un chef d'État qui se retourne contre ses fonctionnaires en disant « Tenez, c'est eux les coupables, c'est eux les responsables. » Non, c'est lui le patron, c'est lui le responsable
vous a
de tout
déçu,
ce qui s'est passé,
Philippe Devilliers,
de l'État profond.
Qu'est-ce qui vous a déçu ? Vous avez cru un moment en lui, lorsque vous étiez tout sourire, les deux au Puy du Fou, il y a quelques années, il y a une éternité.
Alors, en fait, je vais vous dire pourquoi il m'a déçu. Je me souviens d'une conversation, la première, où je lui ai dit, attention, c'est pas la peine de chercher à me récupérer, vous me récupérez jamais.
Parce qu'il a cherché à vous récupérer.
Forcément. Un peu, quand même. Bon, je lui fais pas le reproche, d'ailleurs. Simplement, les choses étaient claires. Et je lui ai dit, voilà, le prochain président sera jugé non pas sur ce qu'il aura changé, mais sur ce qu'il aura sauvé.
Il me dit, sauvé quoi ? Les murs porteurs. Et alors ?
Or,
est-ce qu'il vous a entendu ?
Or, 5 ans après, qu'est-ce qu'on constate ? 2 choses. Il a laissé se déchirer les tissus conjonctifs de la France industrieuse. Alors, la Startup Nation, elle est en EHPAD. Et il a laissé se dresser, Sonia Mabrouk, un mur invisible entre 2 sociétés, la société française et une contre-société vindicative qui est en train de nous coloniser.
Et vous lui avez dit droit dans les yeux, parce que dans votre livre, Philippe Devilliers, vous relatez un dîner à l'Élysée auquel vous êtes convié avec le couple présidentiel. Nous sommes le 4 mars 2019. Vous en parlez à la manière d'ailleurs d'un conteur. Vous êtes 3, vous, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, qui vous glissent à l'oreille. Elle vous glisse à l'oreille. Parlez-lui franchement. Il lui manque des chiens d'avalanche. Il le sait et s'en désole. Elle vous encourage à bousculer le président ? Elle est votre alliée dans ce dîner ?
Oui, dans ce dîner, oui, parce qu'en fait, elle vient d'une vieille famille de la droite,
oui,
conservatrice, et elle trouve que l'idée de regarder la France comme une société de domino, comme si Emmanuel était encore le petit parieur du casino du Touquet, ça ne lui va pas. Et en fait, il y a 2 questions au cours du dîner. La première qui touche la filiation, et la deuxième, l'assimilation. Et là, je lui dis, soit on assimile ceux qui viennent vers nous pour en faire des Français de désir, soit ce sera la fin de l'aventure. Et en fait, il ne comprend pas ce que je lui dis parce qu'il est profondément multiculturaliste.
Lui ne comprend pas, et est-ce qu'elle, Brigitte Macron,
comprend.
Pourquoi elle comprend davantage que lui, selon vous ?
Je ne sais pas, ça c'est une question qu'il faut leur poser.
Mais vous avez dû lui en parler. Est-ce que vous la trouvez davantage compatible avec vos idées, votre vision de la France et de la civilisation ?
Je pense qu'en fait, Emmanuel Macron, il est arrivé à l'Élysée avec 3 mantras, les 3 mantras du macronisme. La souveraineté européenne, bon, il a tout faux. La mondialisation heureuse, on a vu ce que ça donne. Et la fameuse Startup Nation, libérer les forces créatrices. Vous vous rendez compte que tout le pays est sous perfusion. Et donc, c'est un échec complet,
mais
c'est l'échec d'une idéologie.
Oui, mais vous allez loin parce que vous lui dites, je cite votre phrase dans le livre, Philippe Devilliers, Emmanuel, si vous me permettez, vous êtes le Charles Martel du pauvre, qui part avec une épée en carbone bénir la mosquée de Poitiers, vous êtes le chef des 10 000, vous êtes welbeckisé jusqu'à l'os. Vous dites ça au président,
oui,
comme ça.
Je lui dis ça parce qu'il ne semble pas voir ce que moi je vais vous dire ce matin qui va faire trembler les murs du studio. Nous sommes face à un problème, non seulement d'invasion, mais de colonisation.
De colonisation,
oui,
par qui ?
Colonisation de peuplement, avec un différentiel démographique qui va nous être très défavorable dans quelques années.
La
ça
théorie
sera trop
du grand
tard.
Remplacement, vous la ressortez, Philippe
Devilliers.
La
théorie du grand remplacement, ouais. elle est sous nos yeux. Il suffit de les gens qui nous regardent, ils vont dans la rue, ils comprennent ce que je suis en train de dire.
Au doigt mouillé, alors on la théorise.
Le doigt mouillé, c'est le meilleur de tous les juges de paix. Ensuite, la colonisation De conquête, avec 200, 300 territoires qui ne sont plus français. Et la colonisation des esprits, c'est la pire, Sonia Mabrouk. C'est quoi la colonisation des esprits? Vous avez les assaillants qui voudraient qu'on accepte la récusation de l'héritage, nous les héritiers.
Mais qui sont les assaillants?
Les assaillants, c'est ceux qui veulent nous coloniser. La cancel culture, hein, vous savez très bien de quoi je parle. La cancel culture, l'intersectionnalité, le néo-féminisme, c'est à tous ces gens qui veulent en fait nous détruire. Et alors les assaillis, c'est les bourgeois de Calais, robe de bure, tête cendrée, un genou à terre, et qui offrent le trousseau de clés en disant « mais oui, on s'excuse ».
Mais ne me dites pas que vous avez dit cela au président de la République, à l'Élysée, avec Brigitte Macron. Oui. Et comment il a réagi? Parce que vous dites, vous décrivez ce moment. Emmanuel est ulcéré, le coq a le dessous, il se braque, il perd ses nerfs, il a déjà repoussé sa chaise en arrière d'un coup de genou.
Oui, et je lui ai rappelé à ce moment-là une phrase terrible qu'il faudra qu'il regrette un jour devant tous les Français, c'est « la colonisation est un crime contre l'humanité ». Un chef d'État qui dit ça, je pense qu'il ne peut pas se représenter.
Il ne peut pas se représenter.
Parce que c'est trop grave dans le contexte actuel.
Vous dites qu'il ne peut pas.
Nous sommes un pays submergé. Nous sommes un pays envahi. Nous sommes un pays soumis. Et on a un président de la République qui continue à nous faire la discrimination positive, le privilège blanc, l'épigraphie des rues.
Alors
avec la diversité. C'est-à-dire qu'il va dans
cette
le sens
vague
contraire de ce qu'il faudrait faire.
La
question de la présidentielle, Sonia Mabrouk, elle est simple. C'est, est-ce qu'on continue l'aventure? Est-ce qu'on décide d'une grande opération de francisation? C'est-à-dire, est-ce qu'on fabrique des petits Français de désir? Ou est-ce qu'on continue des plantes
débétudes
qui promènent leurs étourdissements dans
l'air du temps? Qui
peut
mener ce projet? Qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui en France qui peut porter cela?
Non. Alors aujourd'hui, je vais vous dire, aujourd'hui on est dans la congélation. Tout le monde est bâillonné, vous la première.
Moi, je suis bâillonné.
Oui,
on
est bâillonné. C'est comme ça, on est à la muselière, et sous la muselière, personne ne peut savoir ce qu'on pense.
Donc j'ai aujourd'hui, l'impression que je vous pose toutes les questions. Oui.
Le pays est congelé, la vie politique est congelée. Quand il y aura la décongélation, il y aura des avalanches.
Merci Philippe de Villiers.
Merci.
Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Après l'avalanche, ce sera le jour d'après, ce que je ne savais pas, et vous non plus », chez Albin Michel. Et je note que vous avez dit qu'Emmanuel Macron ne pourrait pas se représenter. Merci à vous.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h29.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1 à suivre l'info, Marion Calais et la météo de Laurent Cabrol. Bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
Le régime de calamité agricole activé et des aides mobilisées pour les agriculteurs touchés ces derniers jours par le gel de leur culture, des températures négatives qui ont ravagé vignes, vergers et champs, compromettant les récoltes futures. Pour Europe 1, Caroline Baudry.
Des bouteilles de vin étiquetées 2021, Guilhem n'en remplira que très peu cette année. Après deux nuits de gel, ce viticulteur dans l'Hérault a perdu 95% de sa future récolte.
Alors quand vous vous réveillez, vous apercevez pas de grand chose, puisque les vignes sont vertes, mais parce qu'elles sont vertes, parce qu'elles sont congelées, tout simplement. Puis au premier rayon du soleil, quand la glace se fond, vous avez votre végétal qui devient tout marron, qui sèche tout simplement, les cellules sont mortes, les cellules ont éclaté, elles se vident de leur eau.
Dans le Bordelais, 30 à 40% des vignes ont été frappées par le gel, même constat pour les arbres fruitiers, beaucoup sont décimés, comme la moitié des pommiers et poiriers de Michel, agriculteur en Seine-et-Marne.
Il n'y aura pas de formation de fruits et pas de développement de fruits. 200 ou 300 000 euros de perte de chiffre d'affaires pour notre entreprise, quoi.
Certains craignaient de revivre le terrible gel de 2017. En fait, l'épisode de ces derniers jours a été plus intense et plus étendu, explique Jérôme Despé, secrétaire général de la FNSEA, premier syndicat agricole français.
Excepté la Corse, quand j'ai fait le Tour de France, j'ai pas une région qui n'est pas concernée par cet épisode donc de gel. Il y a plusieurs milliers d'hectares qui sont touchés avec des pertes à 100%.
La FNSEA qui est encore en train de recenser les dégâts alors qu'un autre épisode de gel est redouté en début de semaine prochaine.
L'avis attendu ce matin de la Haute Autorité de Santé pour les Français de moins de 55 ans ayant reçu une première dose d'AstraZeneca, vaccin qui n'est plus aujourd'hui administré à cette tranche d'âge. Pour le ministre de la Santé, Olivier Véran, ces Français devraient recevoir pour leur seconde injection un autre vaccin. 5 arrestations à Évry
Paris après le meurtre d'un jeune homme de 23 ans hier soir sur fond d'affrontements entre bandes. Parmi les interpellés figure un jeune homme de 20 ans qui s'est spontanément dénoncé au service de police comme étant l'auteur du meurtre. Ils sont sur les rails, les premiers trains à hydrogène. La SNCF vient d'en commander 12 à Alstom, des TER qui circuleront d'ici 2 ans dans 4 régions, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Des trains hybrides en quelque sorte, Aurélien Fleureau.
Après le charbon, après le diesel, place au carburant zéro émission. Hydrogène et électrique, ces trains que la SNCF appelle bimodes ressembleront aux toutes dernières générations de TER, 4 voitures, 220 places, avec une autonomie pouvant assurer des trajets de 600 km, même sur des lignes non électrifiées, annonce Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs.
Le train, il basculera automatiquement sur une énergie hydrogène. Sur des portions de ligne, il utilisera la caténaire et donc la source d'énergie électrique. Et puis, dès l'instant qu'il n'y aura plus de caténaire, aujourd'hui, il basculait en diesel. Eh bien, demain, dès 2023, il basculera sur l'hydrogène. Et donc, on continuera à avoir un transport complètement propre.
D'ici 2023, la SNCF va former ses cheminots aux techniques de la pile à combustible. Ces trains seront 100% Alstom. 6 des 15 sites français du groupe seront sollicités. Conception et assemblage à Reichshoffen dans le Bas-Rhin, développement de la propulsion hydrogène à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées ou encore informatique embarquée du côté de Villeurbanne. 2000 emplois mobilisés sur ce projet chez Alstom, mais aussi chez ses fournisseurs.
C'est un trésor qui commence à dévoiler ses premières pépites, celui laissé par Prince dans une chambre forte où le chanteur a accumulé démos, enregistrements et albums non finis. 5 ans après sa disparition, un album inédit est annoncé pour le mois de juillet. Dès hier, un premier extrait a été diffusé sur les plateformes de streaming. Welcome to America. Chanson parlée, chantée. Get fired, rehired. Quasi prophétique dans laquelle Prince évoque les temps difficiles qui nous attendent et un monde qui se tend à cause de la désinformation. Welcome to America, ce sera aussi le titre de cet album.
Je crois que c'est même la bande-son de mon week-end. On va aller écouter ça très rapidement. Merci beaucoup Marion Calais, cette dernière info ce matin. 8h35, très bon réveil à toutes et à tous. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Avec les dernières informations, tenez, les gelées s'échappent, ça on le sait, et elles se confirment. Hein. Maintenant nous avons passé pratiquement partout la barre des 1 degré. Puis par ailleurs, la pluie arrive, alors elle arrive pas de manière assez en pointillé en quelque sorte. Il y en a des quelques pluies, nous en avons à Mont-de-Marsan, à Pau, Biarritz, La Rochelle et en Vendée. Mais dans la journée, eh bien, les régions les plus arrosées seront celles justement qui sont proches de l'Atlantique, la Bretagne, la Loire, les estuaires de la Loire ou l'embouchure de la Loire. Nous aurons aussi des pluies en Méditerranée, sur le Languedoc, le Roussillon, les Cévennes, avec des vents à 90 km/h. Puis un ciel voilé sur la Normandie, l'Île-de-France, le Nord, Champagne, Ardennes, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Provence et Côte d'Azur. Et dans ces régions, eh bien, les pluies n'arriveront que beaucoup plus tard, notamment sur la capitale en fin de journée. Température maximale entre 13 et 20 degrés, ce sera la fourchette du jour. C'est une fourchette assez savoureuse parce qu'elle monte bien quand même par rapport à hier. Allez, on est parti pour la pluie pour demain et après-demain, mais ce sera beaucoup plus doux.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. 8h36 sur Europe 1 dans un instant. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed.
Et nous allons parler vaccination contre le Covid. Je vais répondre à quelques questions simples, comme à partir de quand sommes-nous protégés une fois vaccinés.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h38 sur Europe. Le docteur Jimmy Mohamed est avec nous. Rebonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
La campagne de vaccination s'accélère et vous allez répondre à quelques questions qui reviennent assez régulièrement autour de la vaccination justement. Alors tout d'abord, est-ce qu'il existe des maladies qui contre-indiquent la vaccination ?
Alors c'est une question qui est assez récurrente. J'ai des patients qui ont des maladies auto-immunes, qui sont immunodéprimés, qui ont des cancers et qui me demandent s'il faut se faire vacciner. Alors oui, quelle que soit la maladie que vous avez, vous pouvez, vous devez vous faire vacciner. Si vous êtes à risque de forme grave, c'est que vous avez une maladie grave et la vaccination n'est absolument pas contre-indiquée. Au contraire, protégez-vous.
Alors, au bout de combien de temps est-ce qu'elle est efficace, cette vaccination ?
Alors ça aussi, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Il faut bien comprendre que lorsque vous avez un vaccin, quel qu'il soit, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, votre système immunitaire va créer une armée d'anticorps. Mais pour créer une armée, il faut un peu de temps. Et donc, lorsque vous sortez du vaccinodrome ou du centre de vaccination, je dis toujours aux patients, considérez-vous comme non protégé. Il faut 3 à 4 semaines avant d'avoir une efficacité optimale. Vous avez réussi à survivre 1 an sans coronavirus, vous êtes vacciné, mais protégez-vous. Maintenez les mesures barrières pendant au moins 1 mois, d'autant plus que l'épidémie flambe. Donc, il faut du temps avant que la vaccination soit efficace. Comptez minimum trois semaines.
Trois semaines pour lever cette armée. Le vaccin Moderna semble avoir moins de succès que le vaccin Pfizer, car dans certains centres, il reste de nombreux rendez-vous. Est-ce qu'il y a une explication ?
Sur le plan scientifique et médical, il n'y a absolument aucune explication. Le vaccin Moderna, c'est un cousin du vaccin Pfizer. Ça utilise la même technologie ARN, donc il est aussi efficace et sûr. Peut-être que d'un point de vue de pédagogie, on n'a pas été suffisamment clair, mais ce sont deux vaccins très efficaces. Et si jamais vous avez la possibilité de vous faire vacciner, allez-y.
Une autre question qui revient très souvent. Est-ce qu'on doit se faire vacciner si on a eu le Covid ?
Alors oui, vous devez vous faire vacciner si vous avez eu le Covid, car la protection conférée par la vaccination est supérieure à la protection conférée par la maladie. Qu'est-ce que c'est que d'avoir eu le Covid ? C'est soit avoir eu une fois une PCR positive ou une sérologie positive. Si vous avez eu des vagues symptômes en mars dernier, mais que vous n'avez eu ni PCR ni sérologie, considérez-vous comme non protégé qu'il faut avoir donc les deux doses. Par contre, si vous avez eu officiellement le Covid, à l'heure actuelle, on vous proposera une seule dose de vaccination 3 mois après l'infection. Il faut respecter cet intervalle.
Alors, une dernière question et une note d'espoir. Enfin, ça dépend de votre réponse, remarque. Est-ce qu'à terme, on pourra enlever le masque une fois vacciné ?
Exactement. Alors, c'est l'objectif. Ouf. On sait qu'avec la vaccination, vous n'aurez pas la maladie et que même si vous l'avez, vous n'allez pas en mourir. Quelque chose d'assez extraordinaire. Mais en plus on s'est rendu compte que la vaccination, notamment avec Pfizer et Moderna, permet d'éviter de transmettre le virus. Ça veut dire qu'on ne sera plus contagieux et qu'à terme, on pourra enfin se débarrasser du masque. Donc protégez-vous, vaccinez-vous.
Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur, c'est ce qu'on dit en sortant du cabinet, pas à l'antenne en général.
Oui, sauf que là, vous n'avez pas payé, Mathieu, c'est différent.
Ah, vous voulez pas de ma carte vitale. Docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Et on vous retrouve à 15h dans son rendez-vous avec Mélanie Gomez. Aujourd'hui, le thème, les adultes surdoués. 8h41, notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour, Fanny.
Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous.
Alors, Fanny, vous nous parlez ce matin de la fin du chantage béton, du béton.
Oui, alors le chantage est un mot bien choisi. Vous savez ce qu'il se passe quand un promoteur foncier vient toquer à la porte d'une collectivité qui lui refuse le permis de construire d'un centre commercial ? Eh bien, le promoteur va voir ailleurs, tout simplement, et paf, les recettes fiscales du centre commercial vont chez le voisin. L'air de rien, c'est ce chantage qui alimente la construction de grands ensembles industriels et commerciaux, seconde cause d'artificialisation des sols derrière le logement. Mais les collectivités, ça y est, ne se laissent plus faire. Chapeautées par les régions, voilà que débarquent les SRADD, acronyme pour dire schémas régionaux d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires, qui amènent à harmoniser les politiques d'urbanisme. Le premier a été approuvé en 2019 dans la région PACA. Il ambitionne de diminuer de 50% l'artificialisation d'espaces agricoles et naturels.
En France, on artificialise plus qu'ailleurs ?
Carrément, d'après France Stratégie, notre pays bétonne plus que ses voisins, avec 47 km² artificialisés pour 100 000 habitants, contre 41 en Allemagne, 30 au Royaume-Uni et en Espagne, ou 26 en Italie. Et depuis 1981, les surfaces artificialisées ont augmenté de 70%, alors que la population n'a augmenté que de 19%. C'est vraiment un non-sens total de voir encore pulluler des projets immobiliers ou commerciaux quand 3 millions de logements et jusqu'à 13% des locaux commerciaux sont laissés vacants. 3 millions de logements vacants, juste comme ça pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 10 logements que l'on pourrait attribuer à chaque SDF en France.
Et en plus d'être un désastre écologique qui contribue au réchauffement, la bétonisation s'accompagne aussi de l'augmentation du trafic routier, bien sûr.
Et oui, des centres commerciaux toujours plus excentrés, ça veut dire plus de trajets pour y accéder. Pourtant, la Convention citoyenne sur le climat demandait l'interdiction de la construction de nouvelles zones commerciales périurbaines. Au final, seules les surfaces de plus de 10 000 m² sont interdites, ce qui rend l'effort presque vain, puisque 80% des projets de surfaces commerciales sont sous ce seuil. Voilà un exemple d'une des propositions rejetées ou fortement amoindries de la part du gouvernement, ce qui ne présage rien de bon pour réellement restreindre l'artificialisation des sols en France. Sauf qu'en l'absence de réglementation forte de la part de l'État pour canaliser les constructions, la bétonisation a des jours florissants devant elle, et cela malgré les efforts des régions pour stopper le phénomène.
Fanny Agostini, Notre Planète, tous les matins sur Europe 1. Merci Fanny, 8h44. Dans quelques toutes petites secondes, on retrouve Nicolas Canteloup et Julie qui s'est installée.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu
Bouillard. 8h46, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. vous en doutiez, ils sont encore en studio. Sonia Mabrouk et son invité.
Oui, mon invité, Philippe de Villiers, pour le livre Le jour d'après, dans lequel vous menez une charge folle contre les GAFA. Mais d'où vient, d'où est venue cette envie de charger les GAFA?
Écoutez, se trouve que je suis tombé sur un film, une fiction, le 18 octobre 2019. Vous vous rendez compte, le 18 octobre 2019, bien avant. Quelques mois avant l'épisode du coronavirus, où il y avait une simulation sur ce qui allait se passer, le coronavirus. Je vois ce film, on venait sortir une représentation du Puy du Fou, j'ai fumé un petit pétard, et là c'est parti. Big Data, Big Pharma, Big Finance, Big Flow et Oli, Big Mac, voilà, savez-vous que... Allez, c'est parti. Savez-vous que Monsieur Klaus Schwab, qui dirige Davos, a invité Emmanuel Macron, lui a remis le Young Global Leader, qui est une distinction unique, rarissime. C'est le début de la digitalisation. On va sacrifier la jeunesse, on sacrifie les métiers, la main et du cœur.
En fait, vous êtes en plein délire complotiste, Philippe de Villiers.
Mais non, mais le complotiste, c'est Monsieur Véran, du temps du menteur George Orwell. Il aurait été son ministre de la vérité. Hein, on est tous condamnés à mourir, à ceux qui sont les petits artistes qui vont mourir, et puis les autres, tous ceux qui ils sont issus des métiers en ligne, hein, les amis du webistant. Hein. Moi, je vous dis, un chef d'État comme Emmanuel Macron qui se retourne contre, comme un chef d'armée qui se retourne contre ces grenadiers voltigeurs. Hein. Vous n'avez pas entendu ça depuis 1945, les grenadiers voltigeurs. Mais c'est pas fini. Hein. Ah, il va ramer quand tout va vouloir me parodier, parce que je suis déjà parti très très loin, je peux vous dire. Parce que oui, il y a les Morlocks et les Héloïs, on va du côté d'Harry Potter, mais je vais aller du côté Feu de l'amour en vous racontant le repas de Brigitte et Emmanuel avec moi. Mais oui, je peux vous le dire, les assaillants sont à nos portes. David Vincent les a vus, et moi aussi. Macron qui a trois mantras, l'Europe toute puissante, il a tout faux, la mondialisation, la start-up nation. Il est complètement welbeckisé jusqu'à l'os. Nous sommes face à un problème de colonisation.
Ah oui, c'est la théorie du grand remplacement.
Mais c'est à nos portes, vous voyez. Demandez aux gens autour de vous. C'est aux doigts mouillés, mais c'est le meilleur indicateur. Il y en a partout, des assaillants, je vous le dis. Et voilà. Mais je vous dis, la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Je lui ai dit, l'épigraphie des rues qui est en train de changer. L'équation des présidents simples est simple. On est en train de sacrifier nos enfants. Il faut des petits Français de désir. Aujourd'hui, je vous le dis, Mme Mabrouk, on est en pleine congélation. Et après la congélation, il y aura les avalanches. Et maintenant, je remets mon chapeau en papier d'aluminium sur la tête pour éviter que les extraterrestres m'espionnent. Mais je vais vous faire dire une dernière phrase qui va faire trembler ce studio. Francis Lalanne avait raison.
C'est bon, tous les deux, c'est fini.
Ah bon, Julie ?
Merci. C'était génial. Allez, Mathieu Béliard, on vous retrouve tout de suite pour les infos du jour.
Oui, bonjour Julie. Et oui, ma chère Julie, bienvenue. Bienvenue sur Europe 1. L'actualité ce matin, c'est le débat. Au-delà, c'est le débat de sur l'euthanasie qui divise la politique française. Ouais. En tout cas, on a une pensée pour ces personnes qui, à l'hôpital, ont émis la volonté de partir. Vous pouvez toujours... demandez, si vous vraiment vous voulez partir, vous pouvez toujours demander à être vacciné avec de l'AstraZeneca. Si, bon, il faut être honnête. Il y a une toute petite chance que ça vous aide à nous quitter. Mais l'avantage, c'est que c'est légal. Peut-être létal, mais légal en tout cas.
Attention, et puis le pot d'aluminium. Hein.
Et puis l'autre info, l'intro info.
AstraZeneca, oui, alléluia. Non, on relance pas.
L'autre info. L'autre info.
Je suis le voltigeur.
L'autre info, je sais plus quelle voix je dois faire. L'autre info, c'est Emmanuel Macron. Oui, on est pas loin du chapeau d'aluminium. C'est Emmanuel Macron qui a annoncé la suppression de l'ENA. On en a parlé d'ailleurs.
Oui, ça, c'est de l'info d'hier.
Oui, pardon. Oui, qu'entends-je, Mme Julie, M. Béliard? Oui, c'est François Hollande, François Hollande, puisque vous ne le dites pas. Bonjour. Les gens ne m'ont pas reconnu.
Mais si, oh là là, vous
les imitations, c'est vrai, sont parfaites. Et donc,
Donc, c'est quoi son problème avec Léna, au gamin, hein? C'est très bien, Léna. Bah, si, je le sais.
J'y vous êtes allé, vous.
Bah oui, j'y étais. Non seulement j'y suis allé, mais j'en suis sorti.
Bah oui.
Bah, souvenez-vous, Graine, c'est une très bonne formation. Souvenez-vous de ma politique, toute ma politique, toutes mes décisions fortes. Le CICE, le crédit impôt. C'est quoi CICE?
Non, je ne sais plus.
On s'en fiche, on enchaîne.
Comment?
Compétitivité emploi.
Oui, bravo, bravo. Vous avez dû en bénéficier, monsieur Béliard. Hein. Et puis toutes mes techniques d'inversion de courbe du chômage.
Ah, bah oui, parlons-en.
Bah oui, oui, toutes ces bonnes idées, elles viennent de ce que j'ai appris à l'ENA. Quelle école! Puis j'avais un ministre sur deux qui venait de l'ENA. Non, non, je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à cette grande école. Et puis, anecdote, mais c'est là que j'ai rencontré Ségolène. Voilà, oui. Bon, c'est vrai que ça peut être piégeux, l'ENA aussi. Bah. Non, effectivement, j'admets qu'il y a quelques trucs qui clochent à l'ENA.
Bon, allez, ça va. Bon, merci. Merci, monsieur Hollande. Et merci à tous. Alors, on va poursuivre toujours avec. Bah oui, parce qu'il y avait plusieurs personnages.
Un fourrier de voix.
Personne à ma brouche. Allez, on va poursuivre toujours avec l'ENA, d'ailleurs, dont Emmanuel Macron a annoncé la suppression. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, monsieur le président.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Je salue Philippe de Villiers. Oui, écoutez, je pense que cette fois, il était temps. Déjà, ceux qui sortent de l'ENA, c'est quand même globalement des nuls, pardonnez-moi. Je suis très direct, je le sais, parce que je travaille avec eux. Bon, là, ça fait un an qu'ils ont des cours en ligne sur des plateformes qui ne marchent pas. Donc, vous imaginez, dans l'état lequel ils seraient en sortant de cette école, ils seraient sortis là encore plus mauvais que d'habitude. Donc, non, ça dégage.
Mais enfin, vous avez fait l'ENA, vous? Pourtant, hein.
Fait l'ENA, je ne sais plus. Non, mais je ne sais plus, vous savez, quand j'étais ado, j'ai fait tant de choses entre mes cours en normal sup, centrale, polytechnique, l'école supérieure d'aéronautique et les beaux-arts, plus médecine et mon sport-études à Clairefontaine. Oui, peut-être que j'ai fait l'ENA dans la foulée, je me souviens plus très bien.
Alors, cette semaine a été marquée par une accélération de la vaccination, mais aussi par une réticence accrue à se faire vacciner par AstraZeneca. Les Français se vaccinent avec Pfizer, Moderna et en dernier recours, avec AstraZeneca. Certains refusent même.
Non mais, c'est fou. Quoi? Ça, mais les Français sont fascinants, mais quand savez-vous? Moi je suis en capacité de m'exprimer sur le sujet, je suis épidémiologiste.
Oui, c'est vrai, on avait oublié.
Mais le français de base, hein, le garagiste, monsieur Béliard, la champouineuse, le peintre en bâtiment, hein,
je suis tout ça.
Je m'adresse à lui, t'as fait quoi comme étude scientifique pour m'expliquer que les molécules du Astra sont moins bien que celles du Pfizer? Non mais c'est fou, l'arrogance du français, c'est fou. Je ne supporte pas les gens qui ont le melon, c'est fou ça.
Bon, cette semaine, c'était l'anniversaire de votre mouvement En Marche. 5 ans, hein, bon anniversaire.
Mais merci.
Ben voilà.
Il n'y a même pas une petite musique d'anniversaire
si,
à la régie.
Ça va venir, on suit le texte.
Oui, merci.
Ah, c'est Patrick Sébastien, ça va, dis donc.
Oui, je m'attendais à ce titre du Stevie Wonder, mais.
Ça sera Patrick Sébastien.
C'est pas grave, je prends. L'intention qui compte.
Voilà, ah, ça quoi. C'est mieux.
Merci.
Bon anniversaire à En Marche et merci Emmanuel Macron.
Vous avez pris votre carte, je sens, madame Julie.
C'est En Marche qui a 5 ans aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Allez, on va terminer avec.
Elle est trésorière du mouvement, elle ne le sait même pas. Elle fait semblant de ne pas y toucher.
Le domicile du chef étoilé Christophe Leroy a été perquisitionné. Il est visé par une enquête pour travail dissimulé et mise en danger de la vie d'autrui. Christophe Ondelat a enquêté pour son émission « C'est Ondelat raconte ».
Leroy, Christophe Leroy, l'affaire Christophe Leroy. Quoi qu'il n'a-t-il bien pu se passer pour que le chef Christophe Leroy soit visé par une enquête pour cuisinage non autorisé et mise en danger de la vie d'autrui. C'est l'enquête du jour dans Ondelat se la raconte. Nous sommes le 7 avril 2021. La police se regroupe devant le domicile du chef Leroy. À travers la porte, on sent un délicieux fumet de poulet rôti et d'épices cajun. Les forces de l'ordre, en sentant cette odeur délicate, comprennent donc immédiatement qu'ils se sont trompés d'un appartement. Il se dirige donc vers la porte voisine d'où provient une odeur de mayonnaise industrielle laissée en plein soleil.
Oh non !
Cette fois, c'est sûr, c'est la porte du chef Leroy. Les policiers toquent chez l'homme à la toque.
Oh, dis donc, bravo là !
Et voici qu'il découvre en entrant, sur une assiette blanche, une feuille d'endive flétrie. À l'intérieur, rien d'autre qu'une demi-tomate cerise. À côté, un menu. Un des policiers alerte les autres. Putain, c'est 55 euros cette merde. Le capitaine doit sortir prendre l'air, prendre une bouffée d'air pur. Un des policiers décide alors de goûter un des plats moches de Christophe Leroy. À la première bouchée, il décide immédiatement de l'inculper pour mettage en danger de la vie d'autrui. Christophe Leroy, sait-il seulement faire cuire des nouilles ? Quelle drogue avaient consommé les jurés qui lui ont donné ses étoiles ? Pourquoi voulait-il s'en prendre aux participants de ces repas clandestins qui ont déjà suffisamment été punis en mangeant ces plats ? Vous le saurez en écoutant On ne la se la raconte.
Ah mais c'est magnifique. Et puis là, ce qu'on appelle une rencontre, quoi, un duo. C'est les deux meilleurs en podcast, Cantelou, On de Latte. Là, je pense que celui-ci aujourd'hui, il est magistral. La revue de presse qui a retrouvé sur Europe 1.fr. Bravo Julie, bravo Nicolas. Et c'est vrai qu'on est quand même un pays merveilleux. C'est Philippe Vandel, bonjour. On est un pays formidable. Il y a une énorme polémique autour de ces restaurants. Et nous, on est là à débattre de la qualité des aliments.
Exactement.
Ah, si on n'est pas français.
Et les policiers se sont trompés de porte. Vraiment, bravo.
Philippe Vandel, c'est Culture Média. La matinée continue de 9h à 11h. Bonjour Philippe.
Bonjour. Notre info média va s'intéresser à D'Artagnan, personnage emblématique de la littérature, Alexandre Dumas, vous le saviez. Mais vous ne savez peut-être pas que D'Artagnan n'est pas qu'un mousquetaire, qu'il a réellement existé. On va raconter tout ça, on va retracer son parcours avec Augustin Viat, qui est le réalisateur du doc d'Arte, La véritable histoire de D'Artagnan. Vous apprendrez également que un pour tous pour un, ce n'était pas la vraie devise des mousquetaires, elle était encore pire. Je ne vous la dis pas, écoutez l'émission. Au sommaire également, Julie,
c'est l'art du teasing.
Voilà. L'animatrice Agathe Le Caron, qui présente bel et bien, c'est une nouvelle émission entièrement consacrée au bien-être. C'est le samedi sur France 2. Et c'est à ma connaissance la première émission bien-être comme ça à la télé. Et puis la comédienne, youtubeuse, chanteuse, humoriste Lola Dubini. C'est son tout premier album.
Merci Philippe. On va rester avec vous. 9h-11h sur Europe 1. C'est Culture Média. Mais évidemment, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Pierre de Villeneuve va vous réveiller samedi, dimanche. Moi, je reviens lundi matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.